VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous. Il est 18h30, temps universel. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 20 avril 2017. Morgane Guerriec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, le gouvernement malien a rétabli l'état d'urgence pour 10 jours. Inquiétude en République centrafricaine suite au départ des troupes américaines et ougandaises pour traquer la LRA. Visite du secrétaire américain à la défense en Égypte. Nous reviendrons également sur les 100 premier jour de Donald Trump à la Maison Blanche. Retrouvez Eric Maniarakis à la fin de ce journal pour les sports et Claire Morin-Jebourg pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Le gouvernement malien a rétabli l'état d'urgence pour 10 jours depuis l'attaque djihadiste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako en novembre 2015. L'état d'urgence a été instauré à plusieurs reprises. Abdourahman Dia.
Cette fois, la mesure a été prise au lendemain d'une nouvelle attaque à Gourma Rarous dans la région de Tombouctou qui a fait 5 morts et une dizaine de blessés dans les rangs de l'armée malienne. Dans un communiqué, le gouvernement explique que la situation sécuritaire au Mali et dans la sous-région reste caractérisée par la persistance de la menace terroriste ainsi que des risques d'atteinte grave à la sécurité des personnes et de leurs biens. L'état d'urgence accorde plus de pouvoir aux forces de sécurité et restreint les rassemblements publics. Mais son instauration n'avait pas permis de juguler les attaques dans le nord et le centre du pays, où les troupes maliennes et onusiennes sont souvent la cible de djihadistes. Les islamistes ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU.
Le Niger va lancer une opération de recensement biométrique de la population dans la région de Difa, proche du Nigeria, qui abrite quelques 300 000 déplacés et réfugiés fuyant Boko Haram. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. La région de Difa, qui compte quelques 600 000 habitants, subit depuis 2015 des attaques du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Elle abrite plus de 300 000 réfugiés et déplacés, donc, dont des milliers vivent aux dépens d'une population locale déjà très pauvre, selon l'ONU. République démocratique du Congo, un suspect a été arrêté dans l'est du pays en lien avec le meurtre du docteur Gildo Biamungu, un médecin proche du docteur Denis Mukwege, chirurgien réputé pour son aide aux femmes violées. Un suspect répondant au nom de Boutouné Emmanuel est en garde à vue depuis mercredi et le docteur Biamungu est décédé vendredi de ses blessures après avoir été atteint par balle à son domicile par des inconnus. Afrique du Sud, plusieurs chefs de l'opposition et des militants de la société civile ont annoncé la création du Mouvement de la Liberté. Cette nouvelle organisation appelle à des manifestations contre le président Jacob Zuma et on fait le point avec Solange Nyamulisa.
Le mouvement appelle les Sud-Africains à manifester le 27 avril prochain, jour de la liberté, une journée fériée dans le pays. La nouvelle coalition estime qu'il est urgent de s'unir pour stopper la trajectoire actuelle de l'Afrique du Sud. Elle envisage une série de marches pour exprimer leur colère contre le président Zuma. Moussi Maïman, chef de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, a dit à Soweto qu'il lutte pour la liberté de tout un chacun. Ce nouveau mouvement n'est pas un parti politique. Pour l'instant, les combattants pour la liberté économique de Julius Malema n'en font pas partie, mais Desmond Tutu a tweeté qu'il soutenait le principe d'une coalition appelant les Sud-Africains à manifester le 27 avril contre Jacob Zuma. Le président Zuma, empêtré dans plusieurs scandales, fait face à la grogne croissante, y compris dans son propre parti, l'ANC, au pouvoir.
Et Kenya, les élections générales sont prévues le 8 août. Le président Uhuru Kenyatta a promis la fermeté face aux fauteurs de troubles dans un pays qui a souvent été le théâtre de violences pendant les élections. Souvenez-vous, il y a 10 ans, des violences avaient fait plus de 1100 morts en raison de la contestation du résultat de la présidentielle. Visite du secrétaire américain à la défense en Égypte. Le séjour de James Mattis s'inscrit dans le cadre du réchauffement des relations entre Washington et le Caire depuis l'arrivée du président Donald Trump à la Maison Blanche. Les précisions de Timothée Donongmaï.
Le patron du Pentagone s'est entretenu avec son homologue égyptien Sedki Sobhi et le président Abdel Fattah el-Sissi, dont la visite en début de mois à la Maison-Blanche était la première d'un chef d'État égyptien depuis 2009. L'aide annuelle américaine à l'Égypte se chiffre à environ 1,5 milliard de dollars, dont 1,3 milliard dans le domaine militaire. L'Égypte connaît des difficultés politiques et financières, mais les États-Unis souhaitent qu'elle demeure fermement engagée dans la lutte contre le terrorisme. Les deux pays apportent un appui militaire à la lutte contre le groupe État islamique en Libye. Toutefois, Washington soutient le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale, alors que le Caire a pris le parti du général Khalifa Haftar. James Mattis, qui venait d'Arabie Saoudite, a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu au Caire, avant de s'envoler pour Israël, troisième étape de son périple au Moyen-Orient.
Accord entre l'Égypte et le Soudan. Les deux voisins ont convenu aujourd'hui de ne pas accueillir ou soutenir de groupes d'opposition à leurs gouvernements respectifs. Le ton était monté entre Khartoum et le Caire ces derniers mois. Le président soudanais Omar el-Béchir menaçant même de porter devant l'ONU un contentieux territorial avec l'Égypte et l'accusant de soutenir des opposants soudanais. Les médias égyptiens ont pour leur part accusé plusieurs fois Khartoum de donner refuge à des membres de la confrérie et des frères musulmans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la lutte pour la reprise de Mossoul se poursuit en Irak. L'armée dit avoir repris deux quartiers supplémentaires dans l'ouest du dernier grand bastion djihadiste. L'étau se resserre autour du groupe État islamique retranché dans la vieille ville. C'est en tout cas ce qu'on dit des commandants. Attaque chimique présumée en Syrie, la Russie et l'Iran souhaitent une nouvelle enquête de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques. Moscou et Téhéran demandent notamment qu'une nouvelle équipe soit chargée d'enquêter pour établir si des armes chimiques ont été utilisées à Khan Cheikhoun début avril et comment elles ont été livrées sur le site de l'incident présumé. Cette proposition russo-iranienne demande également aux enquêteurs de se rendre sur la base aérienne de Shayrat, frappée par les États-Unis, pour vérifier les allégations concernant le stockage d'armes chimiques. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a rejeté les accusations des États-Unis, disant que Téhéran cherchait à produire une bombe nucléaire. Les précisions de John Lyndon.
Les accusations des États-Unis ne peuvent cacher le fait qu'ils ont admis que l'Iran respectait les termes de l'accord sur son programme nucléaire conclu en 2015 avec les grandes puissances, a écrit M. Zarif sur Twitter. Téhéran affirme que son programme est exclusivement destiné à des fins pacifiques, mais il a signé avec six grandes puissances un accord limitant pendant 10 ans l'enrichissement d'uranium en échange d'une levée de sanctions. La Maison-Blanche a certifié mardi que l'Iran respectait ses engagements, mais a estimé que cet accord n'était qu'une façon d'acheter le régime iranien et ne faisait que retarder le développement de son programme nucléaire. Mercredi, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a estimé que l'accord nucléaire avec l'Iran échouait à remplir ses objectifs et que le président Donald Trump a ordonné la réévaluation de la position de Washington face à Téhéran.
Ici, aux États-Unis, la Cour suprême de l'Arkansas accorde un sursis à un quatrième condamné à mort en raison de la péremption d'une substance utilisée dans les injections mortelles. Cet État prévoyait d'exécuter 8 détenus d'ici la fin du mois. Hicham Diop, un Belge de 43 ans qui avait agressé au couteau 2 policiers à Bruxelles en octobre 2016, va être jugé pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste devant un tribunal correctionnel. Hicham Diop, un ancien militaire adepte du kickboxing, s'était jeté sur les 2 agents qu'il avait blessés mais qui avaient pu quitter l'hôpital le soir même de l'agression. Grève de la faim dans les prisons israéliennes. Des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants palestiniens devant la prison d'Ofer en Cisjordanie en soutien aux détenus. Environ 1500 prisonniers palestiniens ont cessé de s'alimenter depuis lundi pour protester contre leurs conditions de détention et dénoncer des discriminations. Par ailleurs, la police israélienne a radié un policier qui avait insulté et frappé un Palestinien, une agression filmée qui avait provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux. Un tribunal italien a reconnu le lien entre l'apparition d'une tumeur bénigne du cerveau et l'usage excessif du téléphone portable chez un homme. Le malade devra donc recevoir une rente à vie pour le préjudice subi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Claire Morin-Gibourg, La Minute Éco.
Après l'Ouganda et le Kenya, la chenille légionnaire d'automne a été détectée au Rwanda, dans le district de Nyamagabe. L'Office rwandais de l'agriculture s'est voulu rassurant, affirmant que l'invasion était pour le moment sous contrôle. L'armée rwandaise a, elle, dressé un bilan plus alarmiste, en indiquant que l'insecte est devenu une réelle menace pour la sécurité alimentaire nationale. La chenille s'attaque majoritairement au sorgho et au maïs, dont le Rwanda produit chaque année environ 900 000 tonnes. Près de 80% des 11,7 millions d'habitants de ce pays dépendent de l'agriculture. À Abidjan, les ministres en charge de l'agriculture et de l'industrie de l'Afrique de l'Ouest ont entamé des concertations en vue d'accélérer le développement industriel de l'anacarde et du cacao, regrettant les faibles taux de transformation dans les principaux pays africains. Les ministres préconisent une meilleure coopération régionale. Au Burkina Faso, les résultats d'une FinScop, l'enquête sur l'inclusion financière du ministère de l'économie, ont été publiés. 40% des adultes burkinabés n'utilisent aucun produit ou service financier et 49% des citoyens burkinabés n'avaient aucune épargne au moment de l'enquête.
Et on enchaîne sur les sports avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Morgane.
Football, revenons sur les deux matchs d'hier. D'abord l'élimination de Barcelone.
On parle même de la guillotine Morgane. La génération dorée n'est plus à la hauteur de la Ligue des Champions. Barcelone est absent du dernier carré pour la troisième fois en quatre saisons. Le roi est nu, un monarque vieillissant, titre certains journaux sportifs. La dynastie barcelonaise a dominé la Ligue des Champions pendant une décennie avec quatre titres en 2006, 2009, 2011 et 2015. Le club a grand besoin de sang neuf, notamment pour reconstruire son milieu de terrain. Messi et ses coéquipiers ont toutefois eu droit à une immense ovation en fin de match, Morgane, pour dire au revoir à Majesté et qui n'ont pas démérité. Belle revanche de la Juventus en tout cas, car en 2015, les Turinois ont perdu la finale par 3-1 face aux Catalans.
Et Monaco, par contre, a séduit.
C'est l'invité surprise de la Ligue des Champions. Les Monégasques ont offert un football d'attaque, Morgane. La naissance d'une future étoile Mbappé, français de parents congolais. La montée en puissance de Bakayoko, Mendy et Sidibé. La confirmation du talent de Lemar et Silva, l'émergence de Touré ou encore l'émancipation de Fabinho n'ont laissé aucune chance aux Allemands du Borussia Dortmund. La composition actuelle de Morgan rappelle l'époque de l'icône George Weah, les années 88. Et jamais, depuis la refonte de la Ligue des Champions, dans sa version moderne en 1992-93, une équipe passée par le troisième tour préliminaire puis des barrages n'avait atteint les demi-finales.
Eric, quelles vont être les affiches des demi-finales de Ligue des Champions?
Nyon, le siège de l'UEFA, décide demain au tirage au sort à partir de 10h temps universel. Deux énormes machines, le Real Madrid et la Juventus de Turin, en habitué l'Atlético Madrid et en invité surprise Monaco. Alors le Real Madrid tenant du titre et l'expérimenté Juventus font figure d'épouvantail. Mais en 2015, Morgane, la Juve avait balayé le Real à ce stade de la compétition. Un choc entre les deux clubs serait intéressant.
NBA, play-off, premier tour, les résultats ?
Conférence Est, Washington a battu Atlanta 109-101 et mène 2-0. Conférence Ouest, Golden State a frappé Portland 110-81 et mène 2-0 également. Enfin, Houston a gagné contre Oklahoma City 115-111 et mène 2-0.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Diriek en votre compagnie. Deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Cap sur le Cameroun. Ahmed Abba, journaliste de RFI de langue Haoussa, sera fixé sur son sort le 24 avril. Le délibéré sur l'affaire qu'il oppose au gouvernement camerounais a été renvoyé à cette date. Des faits de non-dénonciation d'actes de terrorisme et de blanchiment des produits d'actes de terrorisme lui sont reprochés. Il risque donc la prison à vie. Les réactions avec Emmanuel Juntap à Yaoundé.
La surprise, sentiment partagé par de nombreux observateurs après le report du délibéré sur l'affaire ministère public camerounais contre le correspondant de RFI en langue Haoussa, Ahmed Abba. La surprise, surtout après la réquisition du commissaire de gouvernement qui a demandé que le journaliste soit condamné à vie et non plus à mort. Dès cet instant, le verdict final était suspendu aux lèvres du président du tribunal. 3 heures d'attente et au bout, un report du délibéré au 24 avril prochain. Maître Charles Tchungang, avocat de journaliste Ahmed Abba, ne sait plus où donner de la tête.
Pourquoi reporte-t-on cette décision ? Y a-t-il eu un problème parmi les membres, n'est-ce pas, du tribunal ? On n'en sait rien. Il y a eu tellement de pression et d'intervention dans ce dossier. Qu'est-ce qui a pu se passer entre midi et 15 heures ?
Un report qui a laissé aussi les responsables de Radio France Internationale venus assister au procès sans voix. Pas de commentaires en public, mais en off, un sentiment de gêne sur le sort subi par leurs employés, les faits de non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment des produits d'actes de terrorisme ont finalement été retenus par les juges contre le journaliste Ahmed Abba. Du coup, c'est la loi antiterroriste du Cameroun qui subit les foudres des hommes politiques présents dans la salle d'audience. Okala Ebodé est du mouvement de la renaissance du Cameroun.
Ahmed Abba est poursuivi dans le cadre de la loi de 2014, portant répression des actes de terrorisme. Une loi que le MSC a fortement dénoncée en son temps, mais nous étions scellés dans ce combat. Aujourd'hui, l'utilisation que le gouvernement en fait nous donne raison. Cette loi n'était pas faite essentiellement pour combattre le terrorisme, mais pour, n'est-ce pas, empiéter également sur l'exercice des libertés.
De nombreux journalistes venus assurer la couverture du procès, appréhendent désormais leur métier au Cameroun, au vu de la peine qu'encourt le correspondant de RFI en langue Haoussa, Jean-Charles Billot, de Radio Tiémini Siantou.
En tant que journaliste, lorsque vous avez quelqu'un qui vous donne des informations, est-ce qu'il faudrait livrer cette personne-là ? Alors ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est dans l'exercice même de la profession, comment est-ce que nous allons exercer, sachant qu'en collectant, en prêtant et en diffusant, nous avons au-dessus de nous une loi antiterroriste qui pèse.
Lundi 24 avril 2017, sera-t-il le jour du verdict final dans cette affaire ? Tout le monde l'espère. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Inquiétude en République centrafricaine suite au départ des troupes américaines et ougandaises stationnées dans l'est du pays pour traquer des responsables de la LRA. Les organisations de défense des droits de l'homme craignent que le vide laissé puisse profiter aux groupes armés qui contrôlent encore plus de 50% du territoire national. À Bangui, le gouvernement entend reprendre la main dans la région. Et sur place, Freeman Sipila.
Le retrait des troupes américaines et ougandaises de la RCA a renforcé la crainte des populations de la région de l'Est. Les violences meurtrières qui ont secoué ces trois dernières années le pays n'ont pas affecté les localités où étaient basés des soldats américains ou ougandais. Quelques jours aujourd'hui, après l'annonce du départ de ces forces de lutte contre la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, les groupes armés commencent à s'activer dans cette partie du pays. Un véritable danger, remarque Serge Soleil Sirimalé, coordonnateur de l'Observatoire national des élections.
Sur la question de la sécurité, le retrait des militaires américains de la zone de l'est du pays, précisément de la ville d'Obo, pourrait accroître l'insécurité au sein de la population civile de cette localité. A-t-on envisagé une alternative au retrait des troupes américaines? De ce qui précède, l'Observatoire national des élections recommande la restauration effective de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire centrafricain.
L'inquiétude monte également au sein de la population. Les attaques armées deviennent récurrentes, les appels à l'aide se multiplient. La Commission nationale pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme sur la situation des civils et des réfugiés congolais de la République démocratique du Congo basés dans l'est de la RCA. Valérie Yamandé, son secrétaire général.
La Commission nationale pour les réfugiés informe l'opinion nationale et internationale que dans la nuit du 15 avril 2017, la ville de Zemio a été attaquée par un groupe armé. Le bilan de cette attaque fait état de 2 morts, des blessés et plusieurs déplacés. La CNR se dit très inquiète de la situation et craint une escalade.
De son côté, Bongui joue à la carte d'apaisement. Le porte-parole de la présidence centrafricaine rassure que l'armée nationale sera bientôt déployée avec les forces de la MINUSCA dans cette partie du pays. Albert Yaloké, Mokpem.
Nous déplorons ce départ compte tenu de l'état actuel de nos forces. Ce qu'il faut dire aux centrafricains qui nous écoutent. Le président de la République a posé ce problème et un certain nombre de pays, notamment les États-Unis, ont décidé d'apporter leur contribution au renforcement de nos forces de défense et de sécurité pour les apprêter à pallier à toute éventualité.
L'armée en pleine refonte doit être redéployée dans l'Est. Question, quand et avec quels moyens? Fuman Sipila, Bongui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Burkina Faso, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale est décriée par des organisations de la société civile. Elle est au centre d'un mouvement d'humeur qui dénonce sévèrement et accuse cette coalition de l'opposition de posséder un agenda caché et derrière sa mission de réconciliation prônée par ses membres. De Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon.
Différents mouvements de la société civile se sont rassemblés ce matin ici au cimetière municipal pour dire leur opposition aux activités menées par la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, mais aussi à certains juges accusés de vouloir faire le jeu de certains barons du régime de Blaise Compaoré en attente de jugement sur les dossiers de l'insurrection et du putsch manqué. Debout au milieu des tombes des martyrs, les différents responsables de ces mouvements ont indiqué d'une voix unique la ligne rouge à ne pas franchir, tant pour les responsables de la CODER que pour les 10 juges. Marcel Tankwano, président du M21, et porte-parole du rassemblement.
Nous avons interpellé là le président du Faso, en lui disant tout simplement de dissoudre la colère qui nous divise énormément. Nous ne pouvons pas comprendre que dans ce pays, après ce grand changement, des gars ont quitté ce pays-là, à midi pile, et qui se retrouvent de l'autre côté, qui ont même changé de nationalité. Que des Burkinabés aient le courage de se rendre là-bas et de revenir nous narguer en disant que le monsieur se porte bien, il est à l'aise. Il nous a envoyé de vous demander, de vous dire qu'il vous pardonne. En vertu de quoi? Nous avons dit c'est le Rubicon. Si ces messieurs continuent, le reste, hein, vous apprendrez tout simplement. Aujourd'hui, nous avons les yeux vraiment tournés vers ce procès qui va s'ouvrir le 27. Nous avons également dit à la justice burkinabé, le dossier de l'insurrection et du push manqué, ils n'ont qu'à aller très rapidement. Voilà. Après 2 ans, il n'y a pas une explication encore possible. Et donc, c'est au président du Faso de prendre ses responsabilités et dans l'urgence.
Michel Rabot, responsable du mouvement dénommé COSCA, a dénoncé pour sa part l'attitude volontairement ambiguë des responsables de la CODER.
Les actes de la CODER en train de poser n'ont rien à voir avec la société civile. Ils ont un agenda politique caché. Et c'est sur ces entrefaits-là qu'on a interpellé en fait les autorités afin qu'elles puissent prendre les dispositions les plus idoines afin que la sérénité revienne. Parce que quoi qu'on le dise, si vous prenez la CODER dans toutes ces déclarations, nulle part elle ne réclame justice réellement. Ce n'est qu'à la dernière minute qu'Abla s'est revenu là-dessus pour dire oui, qu'on ne peut pas aller à la réconciliation à la justice. Mais voyons comment ils sont en train d'agir. Ce qui est certain, c'est que la CODER ne voudrait même pas qu'il y ait justice dans ce pays. Je pense qu'il faut purement et simplement leur dire d'arrêter leur agenda.
Joint au téléphone pour sa réaction, Abla Séodra Ogo, un des leaders de la CODER, n'a pas voulu s'exprimer davantage sur ses phrases à polémique. L'un des membres de la CODER, cependant, Achille Tapsoba, du Congrès pour la démocratie et le progrès, botte en touche.
Nous sommes d'accord que certains ne soient pas d'accord avec nous. C'est ça la démocratie. La CODER est une coalition de partis politiques autorisée par la loi de notre pays. Alors quand on demande notre dissolution, encore une fois de plus, je suis d'accord avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est leur droit de demander notre dissolution, mais c'est notre droit d'exister. Et nous allons exister. Malgré leur demande de dissolution.
Le M21, le CAR, la COSCA et le MPRESCA, mouvement de l'insurrection populaire, sont à l'origine de ce mouvement, accompagnés par la Ligue des jeunes du Burkina. Ils disent attendre l'acte de dissolution de la CODER. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche ont été assombris par plusieurs enquêtes sur une éventuelle interférence de la Russie dans les élections américaines. Est-ce que la campagne de Trump était de connivence avec Moscou? Il y a encore beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Le point avec Lionel Gaïma.
Le 10 janvier, les hauts responsables des renseignements américains ont témoigné pour la première fois devant une commission du Sénat sur les efforts russes en vue de saboter la dernière présidentielle américaine. James Clapper, ancien directeur des services secrets.
We have high confidence that President Putin ordered an influence campaign.
Nous croyons fortement que le président Poutine a ordonné une campagne d'influence en 2016. Ses objectifs étaient d'amoindrir la foi au processus démocratique américain, dénigrer Hillary Clinton et réduire ses chances à la présidence. Monsieur Poutine et le gouvernement russe ont affiché une nette préférence pour Trump, le président élu.
Putin and the Russian government also developed a clear preference for President-elect Trump.
Il y a beaucoup d'accusations, mais très peu de preuves dans le plus gros scandale à secouer Washington depuis plusieurs années. Après plusieurs semaines de bibilles, il y a eu la démission du conseiller de Trump à la sécurité nationale, le limogeage de la ministre intérimaire de justice et la décision du président de la commission du renseignement de la Chambre de se récuser de ses enquêtes liées à ce scandale. Finalement, le directeur du FBI rend public ce qui était déjà l'objet des supputations en disant que son agence avait commencé une enquête sur la Russie en juillet dernier.
I have been authorized by the Department of Justice to confirm.
J'ai obtenu le feu vert du ministère de la Justice pour que le FBI mène des enquêtes sous les efforts du gouvernement russe visant à interférer dans les élections de 2016, ce qui inclut la nature d'éventuels entre des individus associés à la campagne de Trump et le gouvernement russe. Donald Trump a qualifié ces accusations de canulars, affirmant que le vrai scandale, c'est la surveillance que l'administration Obama aurait ordonnée sur lui et ses associés pendant la campagne de l'année dernière.
It's all fake news.
Ce sont des fausses nouvelles. Mais pour Richard Benveniste, ancien procureur dans le scandale de Watergate, l'enquête sur Trump, c'est du sérieux. Ça met en relief les vulnérabilités de notre démocratie et des autres démocraties dans le monde sur des techniques d'interférence, le piratage informatique, la désinformation et plusieurs sortes de perturbations dont nous devons être protégés. Et les parlementaires américains veulent aller jusqu'au bout et aussi longtemps que cela prendra. Richard Burr, président de la commission du Sénat sur le renseignement. On ne dira jamais assez ce que la mission de la commission, qui est de passer à la loupe toutes les activités que la Russie a pu mener pour altérer ou influencer les élections de 2016 aux États-Unis. Et la commission sénatoriale sur les renseignements est l'une des cinq entités qui doivent regarder de plus près cette interférence russe. Sept employés de cette commission doivent passer en revue des milliers de documents classés secrets. Une vingtaine de témoins seront interrogés, dont Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump. Le FBI a refusé de commenter, mais le mois dernier, son directeur James Comey a affirmé qu'il est franchement impossible de dire le temps que l'enquête prendra.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Josèle Morissin, Tian Wan à la console, Morgane Guerriac à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.